Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Radio Exterior de España.
L'émission en français.
Confluence hispanique, une collaboration Casa de Velázquez, Radio Extérieure d'Espagne.
Polygraphe.
Vers la modernisation, la police.
Recueil écrit en prison.
Relations diplomatiques.
Confluence hispanique.
Dans le champ de la citoyenneté.
Caïman Barbudo.
Le mouvement autonome.
Entre l'université et la société.
Une collaboration Casa de Velázquez, Radio Extérieure d'Espagne.
Confluence hispanique, une collaboration Casa de Velázquez, Radio Extérieure d'Espagne. Lise Fournier, membre scientifique Casa de Velázquez. Sujet, université, territoire, société.
C'est la deuxième année que je suis membre à la CASA en ce moment. Je suis ancienne élève de l'École normale supérieure de Lyon et j'étais en poste à l'Université de Paris-Escreteil avant d'intégrer la CASA de Velázquez.
Ici à Madrid, vous êtes en train de travailler sur le système universitaire. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'une université ?
Une université remplit plusieurs missions. Et la localisation de ce type d'équipement universitaire est très intéressante à observer et elle nous apprend beaucoup sur la manière dont, dans le cas de Madrid notamment, se construit la croissance urbaine, le développement urbain, également la croissance métropolitaine. Comment Madrid se construit, s'affiche comme métropole en s'intéressant à cet équipement qu'est l'université, qui est un équipement qui remplit bien sûr une mission de formation à l'enseignement supérieur, une mission de recherche également, et une troisième mission de lien avec la société civile qui peut s'accorder notamment avec la dimension d'interaction entre l'université et la société.
Donc
et le
territoire. On construit une université parce que on a besoin d'une structure de formation des élites.
Des élites, mais avec la massification de l'université, la croissance du nombre d'étudiants, on parle aussi de l'université comme d'un passage d'un service lié aux élites à une université de masse, à un service de masse, donc un service beaucoup moins rare.
El verdadero artífice de la Universidad de Alcalá de Henares fue el cardenal Cisneros.
Estadista, franciscano, austero, inquisidor, confesor de Isabel la Católica y dos veces regente, fue en sentido amplio un verdadero príncipe del Renacimiento.
L'un des premiers enjeux de la recherche, c'est justement de faire l'état des lieux de cette construction de l'université, dans la mesure où actuellement on a un nombre considérable d'universités sur le territoire madrilène, avec 15 universités. Sachant que jusqu'en 1968, il n'y en avait qu'une. Donc l'enjeu de ma recherche, c'est avant tout, au départ, de faire le point sur la construction de ce système universitaire, qui est un système universitaire qui se construit dans un temps assez court, même si l'implantation à l'origine de l'université, elle remonte au premier tiers du XIXe siècle. Avec l'arrivée de l'université à Madrid, lors du transfert de l'université de la Complutense d'Alcalá de Henares à Madrid en 1836. C'est un peu le point de départ de ma recherche.
Donc l'université à Madrid arrive très tard par rapport aux universités historiques, par rapport aux
capitales européennes de manière générale, mais on retrouve une similitude avec le cas madrilène, avec Lisbonne, qui elle aussi est une capitale qui voit une arrivée tardive d'université. L'université de Lisbonne est recréée en 1911. Donc on a ici vraiment une caractéristique des capitales de la péninsule ibérique, avec un équipement de prestige, l'université qui apparaît assez tardivement.
Et cette similitude, elle serait due à quoi ?
Alors, cette similitude, on peut la constater sur plusieurs... il y a plusieurs points de convergence entre les situations universitaires à Madrid et à Lisbonne. On a donc une création tardive, premier tiers du XIXe siècle, début du XXe siècle. On a également, deuxième point commun entre les situations madrilènes et lisboètes, on a la cristallisation d'un point de vue urbanistique autour d'une figure urbanistique, la Ciudad Universitaria. Donc cette figure urbanistique, ce site universitaire à Madrid est construit à partir de 1927. Donc on décide de regrouper toutes les installations universitaires en un même lieu, en exportant le modèle nord-américain. Et ce modèle, cette figure urbanistique de la Ciudad Universitaria, se retrouve également à Lisbonne. La cité universitaire de Lisbonne, elle va voir le jour un petit peu plus tardivement dans les années 30, mais on est sur deux schémas où le système universitaire donc s'implante tardivement, prend les mêmes figures en termes d'organisation spatiale. Et puis troisième point de convergence entre les deux situations, Madrid connaît une explosion du nombre de ses universités, notamment privées, à partir de la décennie des années 1990. Lisbonne, elle aussi, connaît une multiplication du nombre de ses universités et également du nombre de ses universités privées à la même période. Donc on a vraiment des points de parallèle très intéressant, une comparaison qui est assez intéressante. Si on reste dans la comparaison pour essayer de resituer la situation madrilène, on a par exemple plus de différences, de points d'opposition entre la situation madrilène et la situation de Barcelone, avec des choix de localisation des implantations universitaires qui sont parfois divergents. Au contraire, avec Lisbonne, on a plus de convergence.
Alors, donc, on commence par une université à la moitié du XIXe siècle. C'est une université, d'ailleurs, au passage, usurpe, si je peux me permettre l'expression, usurpe le nom de Complutense, qui jusqu'alors était en fait l'université Alcalá de Henares.
Exactement, ce nom reprend le nom latin d'Alcalá, Complutum, et donc la Complutense, en étant transférée à Madrid, garde le nom originel d'Alcalá. Mais elle est également appelée Université Centrale. On a l'utilisation de ces deux dénominations dès le départ, dès l'arrivée à Madrid.
Et qui, si on dit université centrale, c'est qu'on pense université périphérique.
Alors, l'université centrale, cette dénomination-là, elle est plutôt à mettre en rapport avec la construction de l'État espagnol au courant du 19e siècle. Donc, on est dans un contexte où le centralisme se renforce, et donc appeler l'université de la capitale l'université centrale, c'est aussi pour montrer la hiérarchie qui existe entre les universités qu'on va retrouver dans les communautés en région, et l'université de Madrid, qui a une position tout à fait particulière, singulière, dans la mesure où, au moment où l'université d'Alcalá, la Complutense, revient à Madrid, on est dans un système universitaire très codifié, je dirais, avec des districts universitaires, et seule l'université de Madrid propose une palette d'enseignement. C'est la palette la plus riche, la plus complète, allant jusqu'au doctorat. Et c'est vraiment la caractéristique. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait tirer la dénomination d'université centrale. On n'est pas encore dans une réflexion territoriale avec une opposition centre-périphérie ici.
Cette université centrale, Université Complutense, s'installe à Madrid, et ce n'est que beaucoup, beaucoup plus tard qu'on va assister à l'implantation d'autres universités publiques.
Oui.
Mais la Complutense de Madrid n'est pas installée au départ là où elle est maintenant.
Exactement. On a vraiment une construction dans le temps. Petit à petit, en fait, quand l'université arrive à Madrid au 19e siècle, elle va réutiliser, s'implanter dans des locaux qui possédaient jusqu'alors d'autres fonctions. Donc, pour se remettre dans le contexte de l'époque, on est au moment, en 1836, où on est dans la troisième phase de désamortissement, donc le moment où l'État récupère les biens qui appartenaient aux mains mortes. Et donc, l'université va récupérer, va s'installer dans des bâtiments qui appartenaient à l'Église. Donc l'université de la Complutense s'installe notamment au départ dans la Calle San Bernardo, donc plusieurs installations, notamment l'ancien noviciat des jésuites. Et puis on a donc plusieurs pôles qui vont se construire petit à petit. Un premier pôle autour de cette Calle San Bernardo, un deuxième pôle qui va cristalliser plusieurs installations universitaires autour de l'hôpital général, donc entre Atocha et Anton Martin. On a l'installation de la faculté de médecine, de pharmacie, qui constitue un second noyau.
Ce qui est actuellement l'hôpital...
La Reina Sofía.
Le musée Reina Sofía.
Exactement, cet ancien...
était une partie du... avec
l'hôpital
San Carlos.
L'hôpital général, oui. Donc on a un deuxième pôle de santé qui se construit dans cette zone d'Atocha Anton Martin, et un troisième pôle qui se constitue autour de la résidence d'étudiants, donc qui est construite en 1913 sur la Colina de los Chopos. Donc là on est plus au nord de Madrid. Donc cette résidence d'étudiants qui connaît une évolution parallèle à l'évolution de l'université, mais qui constitue un point important dans la structuration de la recherche, notamment madrilène. Puis la dernière figure, c'est bien entendu la Ciudad Universitaria, qui représente un projet d'urbanisme très intéressant pour Madrid et qui correspond au site universitaire de la Complutense, le plus prestigieux, le plus connu, même si la Complutense, par la suite, a connu, lorsque le site de la Complutense a été investi de manière très importante, connaît une certaine saturation de ses installations, la Complutense va également investir un autre campus, celui de Somosaguas, donc dans l'ouest de Madrid.
Donc s'étendre, je ne sais pas très bien jusqu'où va aller ce macro-campus. Mais un campus comme ça, construit ex nihilo, à l'extérieur, pensé pour être à l'extérieur, est-ce que ce n'est pas aussi ça ne part pas d'une prise de conscience des autorités que peut-être avoir l'université au centre de la ville, c'était plus difficile à contrôler que, paradoxalement, l'avoir à l'extérieur.
Alors, au moment où est construit, où est imaginé et construit la Ciudad Universitaria, on est à proximité du centre-ville, vraiment, on a une juxtaposition avec le tissu urbain consolidé de l'époque. Mais là, on est vraiment dans l'idée qu'il s'agit de construire une vitrine pour une capitale et une métropole qui essayent de s'affirmer sur la scène internationale. Mm-hmm. Donc cette appréhension de l'université comme étant susceptible de créer des troubles, un danger. On ne va pas la retrouver pour cette localisation de la Ciudad Universitaria. Par contre, cette appréhension de l'université comme possible trouble va jouer un rôle certain dans la localisation de la deuxième université madrilène en 1968. Donc il s'agit de la création de l'Université Autonome de Madrid qui au départ, devait se localiser à Alcalá de Henares, donc revenir à un site originel. Et suite aux événements de mai 1968, suite aux événements parisiens de Nanterre, mm-hmm. là, l'université est pensée par les autorités comme potentiellement génératrice de troubles. Et donc, on choisit pour implanter l'Université Autonome de Madrid le site de Canto Blanco, donc à 15 km au nord du centre-ville de Madrid, mais dans un site, là, il est vrai, tout à fait isolé, en périphérie, et de manière à pouvoir circonscrire les étudiants et l'université au moindre problème.
Al vent. La cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, el jutge al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu.
Entre-temps, d'autres universités publiques sont créées, mais comme vous le soulignez si bien il y a un moment, dans les années 90, on a l'impression qu'il y a comme une espèce de dérégulation et des universités privées surgissent pratiquement comme des champignons.
Alors on a deux étapes, on a tout d'abord, une première étape avec la création d'universités publiques qui sont utilisées par les autorités. Donc on est à un moment où la communauté autonome de Madrid est créée, 1983. Elle a la compétence d'enseignement supérieur et de recherche. Et donc deux universités sont créées dans le sud de Madrid, l'université Carlos III, notamment à Getafe et Leganés, et l'université Rey Juan Carlos, qui est une université, elle aussi, multisite. Ces deux universités publiques, dans une optique de rééquilibrer la métropole, s'installent dans le sud de Madrid, qui est un sud traditionnellement défavorisé, ouais, plutôt ouvrier, et répondent à la demande tout simplement de la population étudiante, la population de ces communes du sud de Madrid à cette époque connaît une augmentation du nombre de jeunes en âge d'être scolarisés à l'université. Donc jusque dans ces années 1989 pour la Carlos III, 1996 pour l'université Rey Juan Carlos, on a vraiment une politique qui est menée au niveau de la région pour essayer d'organiser ce territoire universitaire. Dans le même temps, on a une seconde étape qui est à replacer dans un contexte, dans le contexte plus global que connaît l'Espagne, avec à partir de 1991 une évolution législative qui permet la création d'universités privées de plein exercice. Et c'est à partir de ce moment où la législation permet la création de ces universités privées de plein exercice, que Madrid, comme d'autres villes d'Espagne, va connaître une explosion du nombre de ces installations privées. Alors ces installations universitaires privées, elles peuvent être aussi bien des créations ex nihilo, des universités qui n'existaient pas auparavant. On peut penser notamment à l'exemple de l'université Alphonse X à Villanueva de la Cañada, qui est créée en 1993, donc tout de suite au début de cette décennie 1990.
Avec un fort appui municipal.
Avec un fort appui municipal, exactement. On cherche à donner à cette ville de la périphérie ouest madrilène une coloration universitaire. Donc on a des créations ex nihilo, mais on a aussi la reconnaissance de centres universitaires qui étaient jusque-là rattachés à des universités publiques, notamment dans la reconnaissance des titres de diplôme, mais d'universités privées de centres universitaire privé qui était préexistant et qui, à partir des années 1990, deviennent universités de plein exercice.
Alors, dans vos conclusions d'étape, je suppose, vous constatez que il y a une profusion d'universités maintenant à Madrid, alors même que le nombre d'étudiants décroît.
Oui, on a vraiment une situation paradoxale en ce moment. La région de Madrid, notamment par le biais de la dérégulation, a permis la multiplication de ce nombre d'installations universitaires. Et pourtant, au même moment, le nombre d'étudiants que connaît la région est en chute libre. On a depuis le début des années 2000 une baisse très importante du nombre d'étudiants, qui est une baisse liée tout simplement à la démographie. Les personnes en âge de s'inscrire notamment à l'université, la population, le segment 18-24 ans a baissé. Mmh. Et donc ça s'est répercuté sur la population étudiante que connaît la région madrilène, qui a perdu, on estime, une perte d'un quart du nombre d'étudiants en moins de 10 ans, ce qui est assez
énorme.
Énorme, voilà. Et à replacer, à confronter à la situation paradoxale où on a une offre, au contraire, de plus en plus importante. Donc il faut se poser la question de savoir si cette offre va perdurer dans le temps, si on a affaire à un système universitaire viable ou non.
On a l'impression que l'expansion n'a pas été pensée.
Non, c'est exactement ça. Cette multiplication des installations universitaires, elle est liée à la dérégulation. Et donc, ces universités s'installent et sont créées sans qu'il y ait une réflexion en lien avec une planification qui ait été effectuée. Alors Madrid connaît une carence en termes de planification dans la mesure où la planification qui était réalisée à l'échelle de l'agglomération madrilène a été créée pendant l'ère franquiste, la COPLACO, et cette agence disparaît avec la création de la communauté autonome qui n'arrive pas à proposer une planification à l'échelle de la région. Ce qu'on retrouve dans le secteur de l'université, mais qui peut également s'observer dans d'autres secteurs du développement. Donc ici, c'est une carence de planification stratégique qui conduit à la situation à laquelle on assiste actuellement.
En fait, on est passé d'une planification, mais pensée à l'échelle nationale. Ensuite, c'est passé à la région autonome. Mais on continue à avoir l'ambition d'avoir de tout, tout le temps, dans la même communauté. Et ce n'est peut-être pas possible.
C'est difficile de se prononcer sur ce qui est possible ou pas. Moi, je me contente d'observer, en fait, de constater les évolutions sans porter de jugement hein, sur la manière dont les choses évoluent. On est face à un équipement de prestige qui est un équipement attendu d'une grande métropole comme Madrid doit être reconnue. On est face à la troisième agglomération européenne. Donc Madrid accueille des grandes universités en son sein et c'est normal. Après, on constate vraiment une évolution de la politique liée aux universités. L'Espagne connaît... à la fin des années 2000, met en place une stratégie, la stratégie Université 2015, qui vise à créer, à concentrer les moyens sur quelques sites universitaires.
Les pôles d'excellence.
Voilà, les campus d'excellence. Donc, la politique que met en œuvre l'Espagne en concentrant les moyens financiers sur des pôles d'excellence universitaires est une politique qui est également mise en œuvre dans les autres pays européens à la même époque, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Donc là, rien de bien extraordinaire, mais cette politique qui vise à conforter certains pôles au niveau espagnol se retrouve notamment sur une confortation des sites les plus métropolitains. Donc Madrid tire très bien son épingle du jeu dans les premiers appels à projets ministériels des campus d'excellence. Alors la question universitaire commence à connaître un nouveau regain. Si on prend l'exemple de Paris, par exemple, on assiste actuellement à l'émergence de nouveaux travaux sur la place de l'université parisienne et notamment l'évolution, le passage de l'université parisienne aux universités franciliennes. On a un éclatement de l'université de Paris dans les années 1970 et qui conduit à la création de 17 universités à l'échelle de l'Île-de-France. Et à l'occasion de la commémoration des anniversaires de création de cette vague d'universités créées dans les années 70 et dans les années 90, des travaux commencent à être mis au goût du jour. Donc c'est vraiment une question qui redevient à la mode, cette question de s'intéresser à l'histoire de ces universités, mais aussi d'un point de vue géographique et urbanistique, à la localisation de ces implantations universitaires qui sont très riches d'enseignements.
Confluence hispanique, un programme proposé par Imen Huenzar avec Pedro Berastegui à la réalisation. Musique, Raymond Elvent, Tuna de la faculté de droit de Valladolid et Tuna Estudiantina Universitaria de Coimbra. Son, Université autonome de Madrid, vidéo inauguration année universitaire 2007 et archives RTVE.